feedback. Feedback.
J'aime beaucoup les pommes, mais finalement j'en veux pas.
Pourquoi faire?
Pour faire avancer la science. La science.
Les médias dans les rues à l'appel de tous les syndicats.
Bonsoir à vous et bienvenue sur Feedback, l'émission qui revient sur l'actualité. Je suis Diane et j'ai le plaisir d'introduire cette seconde émission spéciale Gilets jaunes du mois de janvier. La première émission est disponible en ligne sur si-lab.fr. Je suis en compagnie de Clément et Simon. Salut.
Salut.
Juliette ne sera pas présente ce soir sur le plateau, mais elle nous a préparé une petite chronique que nous découvrirons en fin d'émission. L'émission est spéciale de par la présence de l'équipe Radioactive. Ilias, Marie et Lucille, Lucille qui est également à la technique, sont à nos côtés. Salut.
Salut. Coucou.
C'est donc tous ensemble que nous allons nous intéresser à l'organisation en interne de ce mouvement. Qui sont les Gilets jaunes? La place des femmes dans ce mouvement? Une potentielle coordination nationale? Vous nous écoutez sur si-lab.fr ou silab88.4fm.
Et pour cette émission spéciale, nous accueillons aujourd'hui non pas un, non pas deux, mais bien trois invités. La première invitée est Bleuhen, bonsoir. Vous êtes enseignante-chercheure à l'université de Rennes 2 en sciences politiques, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Bonsoir.
Merci de me recevoir.
Nous accueillons aussi Yolène, gilet jaune, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et Laure, gilet jaune et street medic, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pour lancer cette première partie, nous allons nous intéresser à qui sont les Gilets jaunes. Je crois que notre invité Bleuhen avait un petit mot à dire à ce sujet au niveau des recherches qui sont menées en ce moment sur les Gilets jaunes.
Oui, je suis enseignante-chercheur en sciences sociales, en sciences politiques, et je voulais simplement préciser que, comme dans le journalisme, en sciences sociales, on essaie d'énumérer ses sources. Et donc, il y a trois enquêtes sur lesquelles je vais me fonder aujourd'hui, qui sont en cours. Il y a une enquête à Bordeaux, menée notamment par le Centre Émile Durkheim, Magali de la Souda. Une deuxième enquête par le collectif Quantité Critique à Lille. Et une troisième à Sciences Po Grenoble, plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur 300 groupes Facebook et exploité 1455 questionnaires. Et donc, c'est surtout sur celle-ci que je vais me fonder ce soir.
D'accord, merci. Et nous allons écouter un premier reportage fait par Simon.
Moi, je me sens gilet jaune dans l'âme, en tant que peuple. Et en tant que femme, bien sûr.
Avant, il y a une manifestation, c'est un parti politique, ce sont des syndicats, il y a des gens à la tête avec qui on peut communiquer. Là, c'est un mouvement qui est apolitique, asyndical. Donc même s'il y a des gens qui vont débattre, ils ne seront pas forcément...
Il y a quand même des porte-paroles, des leaders, de groupes.
Ouais, mais je suis sûre que s'ils vont sur place, eh ben, pour la majorité des Gilets jaunes, ce ne sera pas forcément leur discours.
Mais il y en a qui ont été porte-paroles, on les a arrêtés.
Et vous êtes Gilets jaunes?
Je le mets, mais est-ce que je me considère comme Gilets jaunes? Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est comme je suis Charlie, quoi. Enfin, ouais, c'est pour faire bloc, pour faire masse, quoi.
Pourquoi tu ne portes pas le Gilet jaune?
Bonne question. Bonne question. J'ai pas vraiment la réponse.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Femme, homme handicapé. En fait, tout le monde trouve quelque chose pour soi. Et ouais. Donc, oui, peut-être que les femmes ont leur rôle aussi ici.
On désignait les Gilets jaunes comme des fachos. Et que bon, il y a une domination terrible qui fait dès que le peuple commence à parler, ben, on le critique comme ça, quoi, de cette façon-là. Donc je me suis rendu compte qu'à la base, c'était pas du tout ça. Et mais que par contre, dans les dirigeants, ben si, il y avait quand même des gens qui se la prenaient dur, quoi, localement en tout cas.
Alors nous avons vu la semaine dernière dans notre première émission sur les Gilets jaunes à quel point le mouvement était hétérogène. Vous êtes d'accord, Bleuhen, Laure, Yolène?
Tout à fait.
C'est aussi ce qu'on a un peu entendu dans ce son. Laure, vous êtes street medic. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer en quoi cela consiste?
Moi, je suis un street medic un peu infiltré, on va dire. Un peu ça. Parce que moi, je ne mets pas de matériel sur moi. Je mets tout dans mon sac parce qu'ils ont tendance à nous prendre nos affaires.
Il, c'est qui, il?
Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Et comme moi, je suis un peu connue, donc et moi, je travaille beaucoup dans le médical. Je travaille exceptionnellement dans les urgences, Donc j'ai un peu l'habitude de ce genre, s'il y a des blessés ou quoi que ce soit. Moi, c'est mon but d'être déjà dans la manif pour ce genre de choses. C'est ça qui m'a fait dire je vais y aller déjà pour ce principe. Et puis pour le reste, parce que bon, même moi, si je me sens concernée par toutes les revendications, je pense surtout aux autres avant moi, peut-être par rapport à mon métier aussi. C'est surtout si quelqu'un est blessé ou quoi que ce soit, faire le nécessaire qu'il faut. Et justement, je voulais faire un clin d'œil là-dessus, c'est que ici à Rennes, il y a très peu de street medics. Il y en a même pas très. On doit être qu'une trentaine. Le problème, c'est qu'ils se dispersent tous quand il y a des déplacements comme ça. Et on se retrouve peut-être qu'à deux sur Rennes. La semaine dernière, j'ai réussi avec des street medics de Saint-Malo d'en ramener trois, qui sont bien outillés, on va dire. Ils sont venus avec du gros matos. Et je les remercie pour ça, parce que ils ont été très nécessaires, malgré qu'on n'était pas une grosse manif la semaine dernière, mais qui était quand même assez
répressive.
Ouais, très même. Surtout que les flics se sont pas mal infiltrés en plus parmi nous, donc ils savaient où on allait et ceci, cela. Donc voilà quoi. Moi, je porte pas le gilet jaune quand j'y vais, parce que j'ai pas besoin de ça pour. Je suis dans l'âme déjà, et puis voilà quoi. J'ai pas besoin de.
Mais justement, comment vous êtes à la fois militante et secouriste, comment vous arrivez à concilier les deux?
Parler
de sociologie, c'est une position plurielle.
Ouais, mais moi j'arrive à gérer les deux, donc pour pas essayer de comprendre, moi j'arrive à gérer les deux, j'arrive à concilier les deux, et voilà quoi.
Ne serait-ce que donner du lacrym, du sérum fi aux gens qui se font. Moi je sais que je suis pas street medic, mais j'ai toujours dans ma poche, pareil, pas de sac à dos. J'ai ce qu'il faut pour soigner, c'est basique, mais quand on sait qu'à l'heure actuelle, pour les forces de l'ordre, avoir du sérum physiologique, c'est considéré comme une arme de défense, où est-ce qu'on va, quoi ? Ils nous gazent la figure et on n'a pas de quoi se soulager, on n'a pas le droit d'avoir de quoi se soulager, ça fait quand même peur.
Justement, les strict medics ont été gazés par les policiers, pour moi, assez fortement et sans compréhension de ma part, parce que bon, c'est des gens quand même, ils sont là, et c'est des bénévolats, et voilà. Et j'étais quand même choquée, parce que j'ai dit quand même...
Oui, mais dans le principe, ils rassurent.
Voilà.
Ils rassurent les manifestants qui pourraient être blessés.
On est là aussi pour, même pour les policiers ou quoi que ce soit, on est censé intervenir même pour eux s'ils sont blessés. On ne fait pas quand on a ce métier dans l'âme, comme moi, je ne fais pas de différence dans ces moments-là. Je blesse, si quelqu'un est blessé, j'interviens... Voilà, tout à fait.
Mais du coup, vous portez pas de gilet jaune, Yolène non plus.
Ah si.
Si.
Elle le porte, pas moi.
Voilà, pas ce soir.
Du coup, il y a cette différence entre vous deux. Blaine, le choix, est-ce que vous avez remarqué aussi cette différence-là entre les différents manifestants, entre les différents membres des mouvements des gilets jaunes? C'est ce qu'on a pu remarquer pendant les manifestations aussi, qu'il y a des gens très différents et qui ne portaient pas tous les mêmes signes, pas tous les mêmes symboles.
Alors, sur la question de l'hétérogénéité des profils, pour prendre un peu de recul et regarder l'enquête qui a été menée justement à Sciences Po Grenoble, en fait, c'est hétérogène au sens où les personnes qui manifestent représentent la population française, s'agissant des professions et catégories socioprofessionnelles, sauf qu'il y a une sous-représentation des cadres et il y a une sur-représentation des artisans commerçants. Et il y a aussi une hétérogénéité dans le rapport à la politique, puisqu'il y a beaucoup de primo-manifestants. Dans cette enquête, il y a 55% de primo-manifestants, donc des personnes qui manifestent pour la première fois, qui n'avaient jamais manifesté. Et pourquoi hétérogène? Parce que s'y adjoignent justement des personnes qui sont plus coutumières des mobilisations, comme pour la manifestation du 6 janvier, par exemple, des personnes féministes, d'autres...
Des écologistes.
Des écologistes qui se joignent à la manifestation. Et en revanche, dans le rapport à la politique, ce qui est vraiment le point commun, donc là, ce sera un mouvement plus homogène, c'est qu'il y a une distance par rapport aux partis politiques et puis aussi une distance par rapport aux élites politiques. C'est-à-dire, dans cette enquête, il y a un rejet massif des élites à 95%, mais sans être apolitique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est distant par rapport aux élites politiques qu'on est apolitique, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'intéressent.
La distinction entre apartisan et apolitique.
Voilà, des personnes qui s'intéressent à la politique, au contraire, qui sont à distance des partis, mais pas de la politique. Et puis, ce qui fait le trait commun aussi, c'est la forte situation de précarité. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Oui.
Puisque dans cette enquête, 74% des personnes sont dans une situation précaire.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui se manifestent pour se présenter aux européennes. Est-ce qu'on peut dire que là, du coup, il y a toujours un rejet de la classe politique ? Peut-être une réponse, des Gilets jaunes.
Je ne suis pas sûre que la liste arrive aux européennes, parce qu'il y en a déjà deux qui se sont désistées. Et nous, ce n'est pas le but, justement. Ce n'est pas le moment non plus. Et une personne ne représente pas toutes les autres personnes.
C'est ça. On a un socle commun, je pense, qui est le RIC, en l'occurrence. Récupérer un peu le pouvoir politique qu'on a perdu, même s'ils disent qu'on nous rassemble... Que l'Assemblée nationale vote pour le peuple, quand on voit à l'heure actuelle comment les Gilets jaunes peuvent être appréciés au niveau de l'Assemblée nationale, on se rend compte qu'il y a un gros décalage entre l'Assemblée et le peuple, quoi. Surtout, et au niveau politique, c'est toujours pas... C'est ce que je disais à Simon la première fois que je l'ai rencontré, c'est difficile pour les Gilets jaunes, tout le monde a un socle commun. Maintenant, comment on peut déterminer qu'un Gilet jaune peut se faire porte-parole et... Mais à disposition les idées communes de tout, qui seraient communes à tous les Gilets jaunes, j'ai du mal à... en tout cas, à l'heure actuelle, je ne le vois pas se profiler.
En tout cas, peut-être des porte-parole, mais pas de leader.
De leader, oui.
C'est pas la même chose.
Encore que c'est, on ne sait jamais. Hein.
Et à la lumière de ce que vous venez d'expliquer, justement, Bleu-Haine, par rapport à l'enquête de Sciences Po Grenoble, c'est ça ? Donc, vous disiez justement que... La caractéristique quand même primaire du groupe des personnes membres des Gilets jaunes, c'est justement une précarité, finalement. Est-ce que c'est ça qui explique le grand nombre de femmes qu'on peut observer dans cette mobilisation ? Parce que c'est vrai que, par exemple, je compare avec les mobilisations étudiantes, on voit beaucoup de jeunes femmes, peut-être, voilà, mais c'est vrai que c'est l'une des rares fois où on voit des femmes, en tout cas qui ne sont pas étudiantes, qui n'ont pas la vingtaine et qui se mobilisent. C'est quelque chose de marquant quand même.
Mmh. Oui, puisque justement dans cette enquête, il montre que la précarité touche plus les femmes qui ont répondu que les hommes. Elles sont 10% de plus, 78%, et les hommes touchés à 68%. Ce qui est intéressant dans cette enquête, s'agissant de la précarité et la mesure de la précarité, c'est qu'ils se fondent sur un score qui s'appelle le score EPIS. C'est-à-dire, EPIS, c'est l'évaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les centres d'examen de santé. Donc, en fait, c'est évaluer la précarité de façon assez large, en posant des questions sur les activités culturelles, sociales, sportives, mais aussi est-ce que les personnes ont une complémentaire santé ? Est-ce qu'il y a des relations familiales et sociales ? Et ce qui ressort, en fait, c'est ce que Robert Castel, un sociologue, appelait l'insécurité sociale, c'est-à-dire une désaffiliation, un isolement social et culturel, qui est lié aussi à une fragmentation liée à la façon dont fonctionne le marché de l'emploi.
Mais oui, c'était ce que j'allais vous demander. C'est au cours des manifestations qu'on a pu faire pour faire des reportages en préparant cette émission. Et puis personnellement, on a rencontré beaucoup de Gilets jaunes qui, justement, avaient présenté une sorte de forme de rupture biographique, pour encore une fois parler sociologie, dans leur vie. Et c'est ce qui expliquait leur colère, leur fatigue, ce qui explique leur motivation pour devenir Gilets jaunes. Donc c'est des maladies, des divorces, des licenciements. Est-ce que du coup, les Gilets jaunes sont les membres les plus fragiles de la société ?
En effet, on voit que ils sont fortement touchés par des conditions de travail dégradées. Et ces conditions de travail dégradées, on pourrait se dire que finalement, là où le mouvement est une victoire, c'est que à la fois ça révèle un isolement, mais c'est aussi une victoire sur l'isolement, puisque ça révèle des formes de solidarité. Et là où je dis que c'est une victoire, c'est parce que l'organisation du travail telle qu'elle existe aujourd'hui contraint à l'individualisation, à l'isolement et contraint à la précarité. Et donc, cette position de fragmentation rend très difficile la naissance de formes de solidarité qu'on voit pourtant émerger sur les ronds-points et dans les manifestations sous différentes formes, comme ce qui a été dit tout à l'heure.
Diane, il serait peut-être temps de nous faire une petite pause musicale. Je sais que tu voulais me poser une question, mais on
Oui, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre sur moi.
C'est une habitude.
Voilà, c'est pas grave. Non, on va faire une petite pause musicale, du coup, Clément, avec
Merci,
Nice for What de Drake.
I want to know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on.
I keep letting you back in. Louisiana shit. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know? Yeah. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off. But it's alright, it's a short life. That's a real one in your reflection. Without a follow, without a mention. You really piping up on these niggas. You gotta be nice for what to these niggas? I understand. You got a 100 bands, you got a baby Benz. You got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. Post talk down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days, you know hard times. Doing overtime for the last month. Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make the ass jump. Gotta hit the club like you hit the motherfucking angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. You showing off, but it's alright. It's a short life.
Diesels, your boy, Amy.
Watch the breakdown.
Bon, bah vous écoutez toujours Feedback sur Silab 88.4 et sur c-lab.fr. À toi, Simon.
Et nous allons tout de suite changer de sujet. Et, mais en fait, nous allons un petit peu continuer ce dont nous parlions à la fin de la partie précédente, puisque nous allons aborder la place des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes.
Des femmes.
Des femmes.
Oui, pas des femmes.
Je parle plus lentement, c'est ça. Des femmes dans ce mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que nous avons Laure et Yolaine avec nous. Et nous allons laisser la parole à Marie.
Oui, alors moi, quand on m'a donné le feu vert pour écrire une chronique sur les femmes gilets jaunes, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir vérifier si oui ou non ces femmes gilets jaunes sont féministes. Bah oui, ça me paraissait super clair, limpide. Savoir s'il y a une convergence des luttes ou si ce sont deux combats totalement différents. J'étais intimement convaincue que ma mise en perspective était pertinente. Mais bon, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Bref, je me rends à la manif du 19 janvier pour faire des interviews. C'était ma première manifestation gilet jaune et pour moi, les lacrymos, les tirs de flashball et la BAC qui fonce dans le tas, c'était de l'ordre du témoignage, le genre d'histoire qu'on me raconte, dont je m'insurge mais que je suis de loin, tranquille peinard. J'ai tout de même gardé mon calme, preuve audio à l'appui.
Qu'est-ce que vous avez fait? On était en train de manifester, vous avez gazé comme des chiens de l'autre côté, monsieur. Alors arrêtez, quoi.
Juste, si jamais...
Ouais, j'étais très très calme, on aura compris. Bon, une fois parée de mon sérum physiologique et de mon micro, j'ai quand même pris mon courage à deux mains pour aller parler avec des femmes qui se trouvaient dans la manif. Déjà, premier constat, ces femmes étaient toutes très différentes. Étudiantes, travailleuses, chômeuses, retraitées, il y avait de tout. Voilà un petit tour d'horizon des femmes que j'ai rencontrées le samedi 19 janvier.
Alors moi, pour ma part, je suis gilet jaune depuis le début et c'est la première fois que je vais à une manifestation parce que je suis maman toute seule avec mes enfants et qu'aujourd'hui j'ai voulu les mettre en garde pour être présente parce que j'en ai marre de rester sur mon canapé et que je trouve ça super important d'être là maintenant.
Alors moi je suis à Rennes 2 et je suis le mouvement, du coup je me sens gilet jaune on va dire depuis le début et c'est ma première manifestation aussi parce que c'est un appel régional et du coup je savais qu'il y aurait beaucoup de monde et d'habitude les manifestations sont à Paris et du coup là je savais qu'on serait plein et c'est pour ça que je suis là.
Alors on est gilet jaune depuis le 17 novembre, depuis le premier jour.
Moi je suis là depuis 15 jours après le 17 quoi.
Il n'y a pas que des personnes qui sont au chômage dans les manifestations parce que nous sommes, nous sommes tous salariés. Hein, voilà.
On était avec des grands-mères, on revoit des grands-mères qu'on a vues dès les premières manifestations.
Et quand je leur ai posé ma question, celle dont j'étais si fière, à savoir si les gilets jaunes et le féministe c'était compatible, j'ai eu le droit à ça.
Je ne me sens pas du tout féministe, je me sens gilet jaune.
D'accord.
Je fais partie d'un mouvement gilet jaune, homme, femme, trans, peu importe. Je suis gilet jaune.
Féministe, oui et non, parce qu'en même temps, il y a le salaire des femmes aujourd'hui qui est en cause, donc je pense que oui. Après, ouais, cette question-là, je sais pas vraiment. Ouais.
C'est pas question d'être féministe.
Citoyenne.
Moi, je suis une féministe, mais là, c'est pas question d'être féministe.
C'est un autre combat.
Là, c'est carrément, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Voilà, là, c'est tout le monde.
Ok, bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais, pas si judicieuse que ça ma problématique. Et puis, je me suis rappelée de la polémique qu'il y avait eu à propos de l'organisation simultanée de deux manifestations différentes le 24 novembre, l'une organisée par les Gilets jaunes et l'autre contre les violences faites aux femmes. Les associations à l'origine de la marche des femmes se disaient notamment déçues car leur manifestation était prévue depuis plus longtemps que celle des Gilets jaunes. Les médias ont d'ailleurs parlé de fossé entre les deux rassemblements, soulignant notamment une différence de traitement par la classe politique, le gouvernement et les médias eux-mêmes. D'un côté, il y aurait une sorte de consensus autour de la marche des femmes, une légitimation de la part du pouvoir en place. De l'autre côté, un rejet du mouvement des Gilets jaunes, les vilains petits canards de notre société. Des emmerdeurs de canards qui, au lieu de barboter tranquille, foutent le sbleu et jettent des pavés dans la mare. Les canards, la mare, vous avez saisi. Les femmes que j'ai interrogées m'ont d'ailleurs parlé de ce sentiment de rejet et de désinformation de la part des médias.
Je pense que c'est très divulgué par les médias de maintenir la peur pour que personne n'aille manifester. Et moi, j'avais peur justement parce que je me suis dit, les gens d'extrême droite, si jamais ils savent que je suis extrême gauche, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment... c'est tout le monde dit son mot et il y a pas de entre nous, entre gilets jaunes, il y a pas de violence.
C'est dommage parce que pourquoi ils veulent pas montrer la réelle masse des gens qui sont pas d'accord? Pourquoi c'est juste pour cacher?
En tout cas, la question se pose, quels sont les motifs à l'origine de la divergence entre ces deux mouvements, si divergence il y a? En effet, au-delà des violences faites aux femmes, les associations féministes revendiquent au même titre que les gilets jaunes moins d'inégalités en termes de salaire ou de droits sociaux. Les gilets jaunes sont notamment composés de travailleuses dans le domaine des services vitaux et des services dits intermédiaires, auxiliaires de vie, infirmières, assistantes maternelles, domestiques, aides ménagères et j'en passe. Toutes dénoncent la politique d'austérité de l'État et revendiquent de meilleures conditions de salaire et d'exercice de leurs fonctions. Alors quoi? Est-ce que les associations féministes auraient délaissé la cause des classes populaires? Est-ce que les femmes gilets jaunes se soucient comme d'une guigne des inégalités entre hommes et femmes? Quand j'ai demandé à une de ces femmes ce qu'elle pensait de la polémique qu'il y avait eu autour des manifestations du 24 novembre, elle m'a répondu ceci.
C'est pas du tout le même combat.
C'est pas du tout le même combat.
Ça a été dommage que justement cette marche des femmes tombe en même temps, parce que c'est pas du tout le même combat. Nous on se bat pour tout le monde. Ces femmes, elles se battent pour nous les femmes, c'est complètement différent.
Ce que j'avais pas pigé, c'est que le propre du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il est justement très hétéroclite. Leur credo, c'est de faire corps à partir d'éléments disparates. Des nanas féministes, il y en avait, mais finalement, c'était peut-être pas ça le plus important. Pour les femmes que j'ai interrogées, le plus important, c'était plutôt de dénoncer un système qui opprime ceux et celles qu'on n'entend jamais, quel qu'il soit.
Parce que le mouvement de base, il est parti de partout, extrême gauche, extrême droite, même ceux qui n'ont pas d'avis politique comme toi de base. Et en fait, je pense que là, l'inégalité, le gouffre entre les riches et les pauvres et les droits des hommes et des femmes en général, il se creuse de plus en plus. Et je pense qu'en fait, pas forcément mettre un mot dessus, mettre un mot par exemple France Insoumise ou Le Pen ou féministe, mais au moins faire quelque chose pour nos droits, quoi. C'est vrai que... voilà.
Ouais, c'est femme, ça. Femme, homme handicapé, en fait tout le monde trouve quelque chose pour soi et ouais.
En tant que femme, en tant que citoyen, en tant qu'on est là pour le peuple, on est là pour tout le monde, on est là pour nos enfants.
Le peuple, donc sans condition de sexe, d'âge, de classe sociale ou de parti politique, se retrouve donc dans la rue pour crier sa colère et demander plus de justice sociale, d'avancées économiques, pour vivre mieux, pour vivre bien. Si je quitte le domaine de la simple analyse pour proposer une lecture toute personnelle de ce que je tire de ces différents témoignages, je dirais ceci. Si ces femmes ne considèrent pas que le féminisme est une clé de lecture probante du mouvement auquel elles participent, c'est peut-être justement parce qu'à force de cloisonner les luttes, on finit par s'affaiblir en tant que force potentielle. À trop vouloir définir son combat sous le prisme de l'identité, on risque peut-être de perdre ce qui se veut l'atout majeur des Gilets jaunes, un gros brassage qui refuse qu'on lui accole une étiquette.
Eh bien, merci. Il faudrait presque applaudir. C'était excellent. Est-ce que vous avez une première réaction, nos invités, à ce que vient de nous dire Marie ?
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que on est peut-être femme, mais moi, je sais qu'à la base, ce qui m'a motivée jusque pendant 10 ans, de mes 20 ans à mes 30 ans, je voulais pas d'enfants. Là, je suis en couple, je songe à avoir des enfants et je me dis, mais merde, qu'est-ce que je dirais à mes enfants si j'en ai ? J'ai rien fait. Parce que là, je juge qu'à l'heure actuelle, on est bien au-delà de... Je sais pas comment l'expliquer, je suis émotive en plus. Mais... C'est nos libertés qui jouent en ce moment. Quand on voit ce qui passe en ce moment à l'Assemblée nationale, les lois sur la loi anti-casseurs, juste parce qu'on va en manifestation, on sait qu'on va se prendre des lacrymos sur la figure, on va avoir envie de se cacher le visage. Rien que ça, c'est un motif d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Mais merde, pour moi, on va bien au-delà de nous, travailleurs, actuellement. C'est l'avenir de nos enfants qui joue. Et tu parlais tout à l'heure de la place des femmes. En 68, c'est aussi beaucoup les femmes qui ont fait réagir la société. Et bien, si ça a pris de l'ampleur, c'était aussi les femmes. Et je pense qu'à l'époque, c'était la même motivation, c'est l'avenir de nos enfants. On a un instinct maternel, je pense, qui est présent. Et de se dire que nos enfants auront peut-être des difficultés pour travailler, parce que moi, j'ai parlé avec un gamin de 15 ans en fin de manif il y a 3 semaines, un mois maintenant, il demandait pourquoi on manifestait et il comprenait pas. Et je lui ai dit, il m'a dit, je fais des études pour m'en sortir. Je lui ai dit, ouais, mais de toute façon, part du principe, je lui ai souhaité le meilleur pour sa vie. Hein. Mais quand on voit que de toute façon, j'étais sur un poste, moi, de catégorie C dans la fonction publique, normalement, c'est le bac. Mes collègues étaient tous, moi, j'avais le bac, mais tous mes collègues avaient le BTS. Quand je suis partie, là, j'ai pas été renouvelée après 6 ans en juillet l'année dernière, ma directrice voulait quoi ? Un master sur mon poste. Pour 1300 euros ? Mais c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on fait travailler. On dit aux gens, faites des études pour vous en sortir, mais de toute façon, on dévalue les diplômes pour payer moins cher. Et à l'heure actuelle, quand on parlait de la place des femmes, moi, je pousse le vice avec la grande distribution qui emploie des caissières, à moins que le SMIC, à temps partiel. Et pourquoi ? Pour être sûr que ça ne se révolte pas. C'est derrière ça, c'est ça. Et à l'heure actuelle, on a un président qui a été élu, oui, mais qui oublie pourquoi il a été élu. Il avait Le Pen en face de lui. Et ce qui ressort là-dedans, c'est... quand on fait le bilan, c'est 1000 personnes qui ont financé sa campagne, plus de 50% de l'étranger. Il a offert quoi, l'exit tax ? Pour les Français, il a offert l'ISF. Et à l'heure actuelle, on entend quoi ? Ça coûte un pognon de dingue, les aides sociales. Mais quand on voit que c'est 40 milliards de ICICE pour 57 milliards de dividendes pour les actionnaires du CAC 40, ben on les retrouve là, les 40 milliards, comme le disait un neurochirurgien dans un grand débat. Quand on voit 800 millions d'exit taxes en moins, l'ISF, c'est 3 milliards, il me semble, quelque chose dans ce goût-là. 40 milliards de moins pour la sécurité sociale offerte de charges patronales. Quand on voit ce qu'il fait, il n'y a pas de sous, mais en tout cas, il ne fait pas rentrer les sous et il fait cadeau aux riches et à ceux qui l'ont élu. Il est, nous, pauvres Français, parce que c'est ce qu'on retient, on n'a même plus le droit d'aller dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je n'ai pas voté pour lui, j'ai voté blanc, ça m'a fait mal au...
Au cul, tu peux le dire.
Mal au cul. Il y a 2 ans de voter, mais blanc. Mais je me dis qu'à l'heure actuelle, les gens qui sont dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec sa politique, on a quand même le droit de dire qu'on n'était pas d'accord et qu'à l'heure actuelle, il fait n'importe quoi avec les sous des Français, quoi.
Blaine Le Chaux, vous hochez beaucoup la tête en entendant Violaine.
Oui, bah, dans les deux précédentes interventions, il y a plein de choses qu'on peut retirer.
Sur la question du rapport au féminisme, peut-être que aussi le féminisme est pensé, ce qu'on entendait dans les extraits, comme pouvant cliver. Donc peut-être ce qui est rejeté, c'est un étiquetage spécifique, là où on veut être citoyenne, on se bat contre l'injustice. Néanmoins, si on prend la question des revendications, tous les gilets jaunes se reconnaissent dans la revendication qui est on voudrait moins d'injustice. Et il se trouve que les femmes sont davantage touchées par les inégalités de salaire au sein des mêmes professions, sont aussi exercées des professions socialement dévalorisées, qui sont dans le bas de la hiérarchie sociale, donc sont plus touchées, comme je disais tout à l'heure, par la précarité. Et la question de la représentation de femmes de classe populaire, c'est une question qui a traversé tout le féminisme avec des tendances lutte des classes dans les années 70. Donc c'est une question qui traverse l'histoire.
Et au-delà des féministes, une des particularités de ce mouvement, on disait, la place prise par les femmes qui sont très présentes dans les actions, sur les ronds-points et en manifestation.
Bah, la place des femmes, elle est très forte parce que de toute façon, nous sommes toutes les premières visées par toutes les mesures du gouvernement.
C'est toujours les femmes qui font les révolutions, faut le savoir.
Bah, c'est évident parce que c'est elles qui tiennent les cordons de la bourse, c'est elles qui gèrent le truc et c'est plus possible. C'est peut-être là où ça se joue la différence dans ceux qui réagissent. C'est que les mecs, ils vont quand même toujours au stade, mais les nanas, elles se disent, moi, mes gosses, je veux pas qu'ils aient une vie encore pire que la mienne, quoi.
Bah, c'est vrai qu'on sait que toute la sphère politique, etc., l'espace public est souvent occupé par les hommes traditionnellement. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi la force quand on voit, voilà, même dans les ronds-points, etc., quand même les médias ont pu aussi quand même relayer ces femmes qui prennent la parole, etc. Et c'est ce qui fait d'autant plus la force et qui permet de donner l'idée à tout un chacun qu'on peut être légitime de prendre cette parole-là et du moins d'aller discuter, rentrer dans le débat des discussions.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord à ce qui vient d'être dit dans ce son et ce qu'on dit ? Il y a beaucoup de femmes chez les Gilets jaunes.
Oui, de plus en plus, je trouve. Et qui lâcheront rien, ça c'est sûr. Déjà, par respect, moi maintenant, c'est devenu ça. Je ne me bats même pas pour moi-même, pour mes besoins perso ou quoi que ce soit. C'est pour ceux qui ont été blessés et qui sont morts pendant cette manif. Maintenant, je vais aller manifester pour eux. Voilà, par respect pour eux. C'est la moindre des choses qu'on peut faire pour eux. Enfin, moi, je suis plus de ce côté-là, plus côté... voilà.
Oui,
aussi, ce que j'ai compris aussi de ce qu'on vient d'entendre, c'est de rendre aussi visible l'invisibilité des femmes qui ont souvent une double journée de travail, qui ici, en fait, habituellement, sont moins dans la sphère publique que dans la sphère privée. Ici, elles exportent aussi des revendications de la sphère privée vers la sphère publique. Et ça m'a fait penser aussi à une iconographie de Rosie la rifteuse aux États-Unis qui montre que les femmes étaient invisibilisées quand les hommes partaient au front. En fait, c'est elles qui fabriquaient les armes dans les usines d'armement. Donc, en fait, elles ont un rôle, c'est ce que montrent beaucoup de travaux aussi, qui est souvent invisibilisé, mais qui est souvent vraiment pertinent et surtout incontournable dans tous les événements de l'histoire.
Oui, d'ailleurs, c'est marrant que vous parliez de ce symbole de la lutte féministe, de la femme qui se retrousse les manches avec son bleu de travail. Moi, j'avais lu un article sur le fait que les femmes gilets jaunes prenaient pas trop ce symbole-là, elles l'utilisaient pas trop, elles utilisaient plutôt celui de la Marianne. Justement, par rapport au fait que finalement le féminisme dans les gilets jaunes, c'est pas forcément un terme qu'elles s'approprient, mais c'est vrai qu'en termes de visibilité et d'appropriation de l'espace public, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Par exemple, donc j'étais toute seule et j'ai été interviewée des femmes qui... pour certaines, étaient avec leurs compagnons. Elles allaient avec eux faire la manifestation. Mais j'en ai rencontré plein qui y allaient toutes seules et qui d'ailleurs formaient des groupes ensemble de soutien et qui marchaient ensemble, mais qui ne se connaissaient pas à la base, quoi. Et j'ai trouvé ça déjà super courageux parce que moi, je me chiais dessus. Clairement, j'avais super peur. Et voilà, j'ai trouvé
que... Tu t'es retrouvée toute seule en plein milieu de deux nasses.
Ouais, franchement, j'ai bien flippé. Et j'ai trouvé ça génial qu'en fait, les femmes vraiment se battent, qu'elles soient accompagnées ou non, et qu'elles se retrouvent ensemble, enfin voilà, de manière spontanée lors de la manif. Enfin, c'était vraiment super impressionnant.
Peut-être qu'elles se revendiquent pas de toutes les iconographies, etc. C'est plus l'analogie entre rendre visible ce que font les femmes et qui est invisible. C'était un petit peu ça l'analogie. Mais en effet, on retrouve pas tellement de symboles féministes, mais plutôt la figure de Marianne, comme vous disiez tout de suite, ou les figures républicaines dans les mobilisations.
Alors le paradoxe, c'est qu'en revanche, les coordinateurs, pour pas dire leaders, du coup, les coordinateurs des...
dis pas ça, des différents...
Moi, pas par moi, dealers. Mais si les gilets jaunes entendent ça, tu vas te faire tuer.
Je sais bien. Pour travailler dessus, je sais bien. Justement, les coordinateurs des différents groupes de gilets jaunes à Rennes sont tous des hommes. Comment on explique ça?
Non, à Rennes, c'est un peu le problème... Mais bon, ils font comme ils veulent. Moi, je fais mon truc de mon côté. J'essaie de mettre des choses en place. Je vais essayer de mettre des trucs un peu là, en dehors de ce mouvement aussi, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de misère. Moi, ça me touche de plus en plus. Pourtant, j'ai des gros problèmes de santé, mais j'arrive à aller quand même aux manifs. J'espère être toujours en forme pour le samedi. Mais je prends sur moi et je dis non, il faut que j'y aille parce que si je suis pas là, il y aura qui sera là, surtout en strict medic, surtout sur la Rennes, il y en a pas des masses. Donc ça me tient à cœur tout ça parce que je vois des gens qui sont même pas dans la manif, des gens qui gazent gratuitement moi j'appelle ça gratuitement, les personnes âgées, les enfants, bas âge. Les parents, moi j'en ai fait rentrer plein en urgence l'autre fois au Gaumont, alors que j'ai même pas pensé à ma propre vie, j'ai pensé à la leur avant, parce que moi je me suis dit, moi c'est moi, j'ai pensé à la place des autres, et puis les gens remontaient, ils étaient choqués, mais comment ils peuvent nous gazer, nous, on fait pas partie du mouvement,
mais ils s'en foutent.
Mais alors c'est la même chose si les strict médites, on en parlait la semaine dernière, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes.
Oui, c'est ça, et justement, on va essayer de former, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure sur la place, là au métro, on va essayer de former des gens strict médiques, ça va être un peu compliqué parce que former en si peu de temps... Faire les premiers secours, tout ça.
Sur Gilets jaunes Rennes, on peut s'inscrire et du coup, ils proposent la formation aussi des strict medics, mais aussi d'escorte pour assurer la sécurité des strict medics.
Ouais, mais c'est vrai que c'est assez complexe à mettre parce que j'ai justement le strict medic de Saint-Malo qui était descendu, il a un peu pété sa gueulante sur un groupe des Gilets jaunes et il s'est fait un peu rembarrer parce qu'il a dit qu'il y a 500 personnes et il n'y avait que 4 strict medics, vous vous rendez pas compte. Heureusement qu'on était là, qui fait. Et j'ai dit oui, c'est pour ça que je les remercie. Parce que, il y avait quelques petits blessés, pas autant que les autres fois. Parce que moi, j'ai quand même été témoin d'un... Ça me fait mal au cœur parce que... J'ai même cru que j'étais dans un jeu vidéo... c'était complètement surréaliste. J'ai vu un jeune se prendre un tir de flashball au visage. Il est tombé devant moi et il criait. Et même encore aujourd'hui, dans ma tête, ça résonne, ses cris. Je suis en contact toutes les semaines avec lui, je prends de ses nouvelles. Donc, c'est le petit Gwen de Quimperlé qui a perdu son œil, qui ne retrouvera pas la vue. J'ai eu le constat aujourd'hui, il se guérit, l'hématome se résorbe, mais il ne retrouvera pas son œil. Donc ça me fait mal au cœur. Donc pour lui, pour tous ceux qui ont été blessés, qui sont décédés, qui ont été mutilés et tout ça, par respect pour eux, moi je vais continuer par rapport à ça. Je ne vais même plus penser pour... parce que moi, je ne gagne pas beaucoup, ceci, cela. Non, je vais continuer pour eux déjà.
Bien, merci, on vous sent très émus, on est tous très émus.
Non,
dans
parce studio. Que moi, ce qui m'a choqué, c'est que moi, j'ai vraiment vu ça de mes yeux. Et quand on n'a pas vu ça, on peut imaginer les choses, on voit ceci, cela. Mais moi, j'ai vu vraiment se faire tirer dessus, j'ai vu par qui. Et je pense que ça ira assez loin, cette histoire. Il y aura sûrement des suites. Je peux pas, il y a une injustice, et la justice... L'injustice, moi, je ne peux pas. Que ça soit dans les deux sens, que les policiers soient blessés ou que ça soit l'inverse, la justice doit être faite pour tout le monde, c'est tout.
Eh bien, merci Laure. On écoute tout de suite la chanson Cheese Powers des Trois Fromages, le groupe Rennais.
Alors, on vous propose une petite modification avec le discours qui est assez touchant avec toutes les victimes des Gilets jaunes. On propose la musique de Ayo Boum Boum.
Put your hands up or he will shoot you. Three and three, four and four. Better get your ass down to the floor. Five and five, six and six. Always watch out for the pics. Seven, eight, nine and ten. Send this message to all your friends.
Why do we have a government? If there's no justice, just ignorance. Why do we have a system? If there's no organization, just organized crime. And why do we still vote if we all know things won't be different? 'Cause the president will never make no difference. Why do we prefer to hide, knowing that it just ain't right? Why are we too scared to fight for something that is worth to die for? Boom, boom, another boy dead. Boom, boom, shot in the head. Boom, boom, another mother crying. Boom, boom, couldn't save her son from dying. Boom, boom, another boy dead. Boom, boom, shot in the head. Boom, boom, another mother crying. Boom, boom, couldn't save her son from dying. One and one, two and two. Put your hands up or he will shoot you. Three and three, four and four. Better get your ass down to the floor. Five and five, six and six. Always watch out for the pigs. Seven, eight, nine and ten. Send this message to all your friends. What the hell is wrong with the government? What the goes on with the government? Tell me where was our promised land? If I knew the way, I would leave today. What the hell is wrong with the government? What the goes on with the government? Tell me where is our promised land? If I knew the way, I would leave today. 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 I would leave today. Boom, boom. Another boy dead. Boom, boom. Shot in the head. Another mother crying. Boom, boom. Couldn't save her son from dying. Boom, boom. Another boy dead. Boom, boom. Shot in the head. Boom, boom. Another mother crying. Boom, boom. Couldn't save her son from dying.
One and one, two and two. Put your hands up or he will shoot you. Three and three, four and four. Better get your ass down to the floor. Five and five, six and six. Always watch out for the pigs. Seven, eight, nine and ten. Send this message to all your friends. One bullet, two bullets, three bullets, four. Five and six, just to be sure. His body drops, he can take no more. His hands were up when he hit the floor.
Boom, boom. Another boy dead. Boom, boom, shot in the head. Boom, boom, another mother crying. Boom, boom, couldn't save her son from dying. Boom, boom, another boy dead. Boom, boom, shot in the head. Boom, boom, another mother crying. Boom, boom, couldn't save her son from dying. Boom, boom, another boy dead. Boom, boom, shot in the head. Boom, boom, another mother crying. Boom, boom, couldn't save her son from dying. Boom, boom, another boy dead. Boom, boom, shot in the head. Another mother crying. Boom, boom. Save her son from dying.
Donc vous imaginez, c'est comme si une voiture vous rentrait dedans.
Merci Laure.
Vous êtes toujours sur Silab 88.4 FM et sur site-lab.fr pour nos auditeurs en ligne.
Et on va enchaîner sur une troisième partie avec une question. Se dirige-t-on vers une coordination régionale ou nationale ? Désormais, en Bretagne et dans le Grand Ouest, les actes de la mobilisation rassemblent les manifestants dans une ville. Chaque week-end, on l'a déjà vu à Rennes, il y a deux semaines, à Saint-Brieuc, à Nantes. Mmh. On commence donc à avoir une coordination régionale. Est-ce qu'on quitte un petit peu ces petits groupes dont on parlait tout à l'heure, rennais, pour... voilà, une coordination, quelque chose de plus construit.
Ce qu'ils voudraient sur Rennes, c'est qu'on se retrouve tous à Morlaix. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que moi, je fais ce que je veux, on ne me dit pas ce que je dois faire. Déjà vu, à mon âge, encore moins. je vais aller à Rennes, justement, parce que si on va tous à Morlaix et qu'il y en a qui viennent à Rennes, et s'il n'y a pas de strict midi, on fait comment? Donc, même si je suis toute seule, au moins, il y en aura au moins une. Et puis il faut dire, je vais là, et puis à Rennes ils vont dire, oh tiens, on est tranquille là. Non, il faut vraiment s'imposer un peu plus, toujours dans le calme bien sûr, toujours en restant pacifique le plus possible, malgré qu'en face ils cherchent bien, parce que des casseurs il y en aura toujours, il y a bien des flics infiltrés qui sont casseurs, donc moi, je l'ai vu de mes yeux, donc l'autre il a oublié d'enlever son brassard.
Mais je vous pose cette question parce que le mouvement des Gilets jaunes est quand même parti à la base d'une échelle très très locale, très territoriale. Mm-hmm. Je pense que Blaine, le show, on ne se redirait pas là-dessus. Les enquêtes, je pense, se basent aussi, comme on disait tout à l'heure, sur des groupes très localisés. Est-ce qu'on peut vraiment penser aujourd'hui à une coordination à une échelle plus large, régionale ou nationale ?
Régional, on le voit déjà, ça se passe le tour chaque samedi, parce que tous les samedis, il y a quand même des manifestations.
Ce samedi.
Morlaix et Rennes.
D'accord, ok.
Non.
Mais
c'est Morlaix-Tour.
Morlaix-Tour.
Ah oui.
Je sais pas, sur les pages Gilets jaunes, moi, que j'ai vu.
Non,
vues,
moi, j'ai de source, c'est Morlaix-Tour.
D'accord. Mais pour faire une manifestation nationale, on a déjà pu constater que si on voulait monter à Paris, on nous empêchait les accès au préalable. Et quand on voit d'ailleurs sur le nombre de... là, ça fait les titres en ce moment, sur le nombre de gilets jaunes qui ne sont pas gilets jaunes, mais qui avaient le malheur d'avoir un gilet jaune dans leur voiture et qui sont à comparaître au tribunal parce que c'était un samedi et que c'était pas le bon jour. Quoi.
Ou seulement un casque et du sérum fin, n'est-ce pas, Quentin?
Mais du coup, si on part vraiment sur une coordination qui sera plus régionale, voire nationale, il y aura peut-être une déperdition de l'autonomie de ces petits groupes à l'échelle locale, non? C'est pas ce qui est craint, finalement?
Non, parce qu'il faut que ça soit toujours là, même si c'est un petit groupe, même si on est que 20, c'est pas grave. On est là, on est présent.
N'empêche que je pense que le nombre fait la force,
mais ça veut dire que même si on est 20, on lâche rien, ça veut dire
oui,
ça aussi.
C'est sûr, parce voilà. Que j'en ai fait des manifestations,
c'est ça, c'est même si 20 viendront plus, si on continue, même on est 20, on continue à venir.
L'avantage, c'est que quand on est 20 et qu'on est face au CRS, on peut dire la police avec nous plus facilement que.
Ouais, on a pu discuter avec certains CRS. Là, vous pouvez plus là ces derniers temps.
Là, quand on est en manifestation régionale, c'est mort quoi. Ils ont.
Même le week-end dernier, on n'y était pas. On n'a pas pu discuter avec.
Quand on voit de toute façon comment ça se passe, avec déjà il y a les Black Blocs qui sont présents. Maintenant, ce que je disais, je m'en cache pas. Quand je les vois casser des banques, je vais pas aller pleurer pour les banques. Pour le coup, et même il y a 15 jours, que faisait la BAC surtout, ça défendait les banques. À l'heure actuelle, je suis désolée, mais quand on voit l'utilisation qui est faite des forces de l'ordre, ça fait quand même peur. Ils sont plus là pour défendre le peuple, puisque le peuple, ils l'ont quand même en face d'eux. Pour la majorité, quand même, c'est ce qui se dit dans les syndicats de police, ils sont d'accord avec les revendications des Gilets jaunes, mais... Moi, comme disait Laure, on a pu discuter une fois avec un CRS. Laure a dit gentiment au CRS, un jour, il va falloir choisir votre camp. Il a dit, oui, mais j'ai ma femme, mes enfants à nourrir. Et moi, qui fais? Et dans 10 ou 20 ans, si vos enfants vous posent la question, pourquoi t'as laissé faire? Parce que là, c'est pas pourquoi t'as pas agi, c'est pourquoi t'as laissé faire et pourquoi t'as été contre. Ça m'a fait plaisir quand même de voir la lueur de réflexion dans l'œil du CRS pour quand même se dire que ce sont pas tous des connards, même s'il y en a quand même, je pense, dans le lot. Mais qu'ils sont comme nous et qu'ils n'ont pas trop le choix. Ils ont un droit de réserve. Mais si tout le monde... Là, c'est pareil. Chez eux, l'union ferait la force. S'ils se mettaient tous à utiliser leur droit de réserve, à dire non, on va pas, on n'y va pas, quelle sanction il pourrait y avoir? Pas vraiment. S'il y en a qu'un isolé, forcément, et lui, il va être mis au placard, comme on sait que ça se fait dans la fonction publique. Ce sont des fonctionnaires. Mais j'aimerais bien rappeler que oui, il y a des connards parmi eux, mais que maintenant, quand ils sont face à une foule qui est là en train de dire là, tout le monde déteste la police, j'aimerais pas être à leur place, à être sous la pression de se dire qu'il y a une foule devant eux qui n'est pas forcément haineuse, mais d'entendre ça, de se dire que la pression, elle est là, que si ça dit sa charge, parce qu'à Rennes, on en a vu, dire allez-y, on est plus nombreux qu'eux, on y va. c'est vrai qu'il y a des moments où tu as envie d'y aller. Et tu te dis que ouais, mais tu es pacifique. Et c'est ce qu'il faut qui reste. C'est le côté pacifique de la chose. Mais ce n'est pas toujours évident.
Et pour parler de la coordination au niveau régional, voire national, oui, comment ça pourrait se faire, en fait ? Techniquement, comment est-ce que ce serait possible de faire ça? Comment on élirait les leaders ou les porte-parole?
Oui, c'est ça, c'est justement
la hiérarchie. Et bien, c'est toute cette question-là.
C'est la question.
Pas leader.
Mais parce que
non, parce que je pense que chacun a envie de faire un peu son truc à sa sauce. Et je crois qu'on dit que ça va un peu dans tous les sens en ce moment. Moi, j'ai pas envie de suivre quelqu'un parce que là, on va encore repartir dans un système de moutons. Non, on est là, on a tous des opinions différentes sur certaines choses, mais on est là tous pour mieux vivre quelque part et retrouver des droits qu'on a perdus. Parce qu'il y a des gens quand même qui se sont battus avant nous pour qu'on ait ces droits et pour qu'ils ne partent plus. Parce que là, on est en train de revenir à 100 ans en arrière, hein.
Mais du coup, ce que vous dites, c'est que c'est d'abord un engagement individuel avant que ce soit un engagement de groupe ou pour suivre un leader, on comprend bien.
Mais leader, moi, je suivrai personne déjà d'une. Comme moi, je ne demanderai jamais à moi qu'on me suive. Hein. Comme je dis des fois, qui même me suive. Hein, mais chacun fait à comme il le veut, quoi.
Mais du coup, j'ai envie de retourner la question.
C'est leur vie, je veux dire.
Oui. Oui, je comprends bien. Mais justement, du coup, j'ai envie de retourner la question. Blaine Lechaud, comment on enquête, comment on participe, on mène une enquête comme celle à laquelle vous participez, qui est quand même une enquête à grande échelle, quand ce sont justement des engagements aussi individuels, très localisés, très territorialisés?
Oui, toutes ces questions, ça rejoint la question de la délégation de l'autorité. Est-ce qu'on peut déléguer un pouvoir? À la fois, il y a peut-être un paradoxe parce que c'est un mouvement très critique vis-à-vis du leadership, du porte-parole. Et en même temps, certaines personnes veulent se présenter. Donc, est-ce que ce mouvement est contraint à la représentation ou pas? Parce que la délégation d'autorité, elle est intrinsèquement décevante. Parce que, ça c'est Bourdieu qui disait ça, que dans la délégation et le fétichisme politique, c'est que quand on délègue l'autorité, il y a une dépossession de son pouvoir. Hein, on se dépossède de son pouvoir et donc on risque ce qu'il appelle l'aliénation politique. Et le risque aussi, c'est que c'est la question de ce qu'il appelle l'autoconsécration du mandataire. C'est est-ce qu'il y a des personnes qui vont s'auto-attribuer un pouvoir, s'auto-désigner comme étant des représentants? Donc c'est comment en fait on donne du crédit à quelqu'un qui peut nous représenter? Est-ce qu'il s'auto-désigne ou est-ce que c'est par le vote? Comment est-ce qu'on lui donne de la légitimité?
Et du coup, moi j'ai une question, enfin, parce que je ne suis pas gilet jaune, je ne sais pas comment vous en parlez entre vous, mais
devriez.
Bien sûr, mais je vais revenir, la semaine prochaine.
Vous n'êtes pas obligé d'en porter un. Hein. Moi, je n'en porte pas. Hein.
Mais est-ce que vous pensez à justement des manières d'organiser la suite potentielle? Comment vous pensez les choses si on part du principe qu'il n'y a pas de leadership pour organiser une façon homogène de voir les choses? Enfin, comment ça... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Si, si. La base, le RIC. C'est surtout ça, en fait, qui ressort. C'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui soit dans tout domaine. Quand on voit, c'est en Suisse, mais ils ont voté 242 fois l'année dernière. En quoi, nous, en France, OK, on est peut-être 66 millions. Maintenant, j'ai envie de dire qu'avec Internet et tout ça, on aurait la possibilité de voter à distance plutôt que d'ouvrir des bureaux de vote dès qu'il y aura une loi. Il y a des possibilités qui sont quand même faisables. Maintenant, c'est sûr que c'est à ceux qui ont le pouvoir à l'heure actuelle de décider si oui ou non ils acceptent de céder. Mais j'ai envie de dire que moi, ce qui me fait peur, c'est que ça fait même pas 2 ans qu'il a été élu. Il lui reste 3 ans de mandat. Et je tiens à dire quelque chose qui m'est venu. C'est avant, on élisait le président pour 7 ans. Et tous les 5 ans, on élisait les membres de l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'à un moment, si on n'était pas d'accord, il y avait quand même le vote des législatives qui faisaient que ça pouvait mettre des bâtons dans les roues du président. À l'heure actuelle, c'est roue libre, c'est « t'as été élu ». Dans la foulée, on n'est pas con, on élit les députés en fonction du président qu'on a élu. Et il a champ libre juste pour les 5 années de mandat.
C'est-à-dire, pour répondre à la question de Marie, on peut aller vers 3 ans de gilets jaunes ?
On ne lâchera rien, en tout cas.
Bah,
on passera même l'été, hein, s'il faut.
Ça me ferait mal, mais j'aurais du mal à me dire que j'y vais plus.
On va
plus,
pas
quoi.
Laisser tomber aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé.
Bah, 10 morts à cause de manifestations, c'est...
C'est un manque de respect pour eux, déjà, d'une.
Il n'y a même pas un mot du gouvernement à ce sujet-là.
Ouais, puis c'est lui laisser l'autre... Non, l'autre, moi j'appelle l'autre, parce que moi, je ne considère même pas comme mon président.
Aucun respect.
Moi, j'ai pas de respect pour un homme comme ça, qui n'a pas de cœur, qui n'a rien.
Qu'on n'a pas pour nous, quoi. Il n'en a pas pour nous, on n'existe pas.
Bah non, on est descendants, on est des... Enfin bref, on est des illettrés. Moi, je suis une illettrée parce que je suis bretonne, donc je suis une illettrée. Merci l'illettrée, tu sais ce qu'elle te dit. Voilà. Donc,
le mépris dont il fait
voilà,
preuve.
C'est moi, c'est... plus il est méprisable, plus ça me donne envie d'y aller dans la rue encore plus. Et voilà. Et voilà. Moi, je sais plus quoi dire parce que moi, je suis choquée par tout ce qui arrive et quand je vois. Moi, il faudrait renverser le gouvernement pour moi, le déstabiliser déjà. Je pense qu'il commence déjà.
C'est en Stichy. J'ai plus le nom.
C'est vrai que ce qui fait le point commun des Gilets jaunes, c'est vraiment une très forte critique de l'incarnation du pouvoir par Emmanuel Macron. C'est vraiment aussi le point commun dans les enquêtes, le rejet d'Emmanuel Macron.
Parce qu'il ne représente pas du tout le peuple.
Voilà, le président des riches. Même à l'Union européenne.
Même pas riche, des très riches.
Des très riches, ouais, mais même à l'Union européenne,
Hollande,
au niveau
dit,
de l'Union européenne, il... C'est l'image qu'il a.
Ouais.
Oui, j'avais juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que le mouvement peut s'expatrier à l'international ?
C'est déjà le cas.
C'est déjà
c'est
le cas.
Ça. Il y a déjà, je crois, à New York, il y a déjà eu une
action. Ah oui, il n'y a pas que là.
Toute l'Europe.
Il y a l'Europe, oui,
on
qui
a,
est passée.
Par contre, énormément le soutien de l'Italie, du Premier ministre et du vice-président.
Ouais, mais.
Quoi ?
On a déjà parlé. Les gilets jaunes italiens, c'est pas forcément le même gilet jaune que
oui,
chez
nous,
qu'en France.
Mais
c'est des gilets jaunes pro-gouvernement.
Je parle des gens qui sont au gouvernement là-bas. Je parle pas des gilets jaunes là-bas. Quoi.
Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est quand même à Taïwan. Le côté Taïwan de la chose, c'est que ça va loin. Quoi.
C'est que ça va loin.
Et ça, justement, quand on voit, on critique Macron, mais on critique l'Europe et surtout le monde capitalisme à fond. C'est à l'heure actuelle, je suis désolée, mais j'ai vu une image l'autre jour qui m'a beaucoup fait sourire, un jeu d'échiquier. Le roi, c'est les multinationales. Après, ce sont les banques. Après, la reine, les rois, pardon. Multinationales, non, banque. Reine, banque. Après, gouvernement, et puis ainsi de suite. Et puis en bas, les pions, c'est nous.
C'est nous.
Mais cette image est très, très, très parlante. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les revendications en France sont
celles-là.
Mais ça pousse, ça va au-delà de ça. C'est vraiment une critique du monde capitalisme et le côté humain qui est complètement oublié.
Je voulais juste insister là-dessus aussi. Je rejoins tout à fait ce que Yolaine vient de dire. C'est qu'on parle souvent des cibles politiques. Il faut vraiment insister là-dessus que la critique du capitalisme est sans doute moins incarnée parce qu'il n'y a pas forcément une figure du capitalisme, mais c'est une revendication et une dénonciation très forte chez les Gilets jaunes. Il ne faut pas oublier ça aussi. La critique économique et la critique du capitalisme. Ouais.
Et nous allons conclure là-dessus, conclure ces deux émissions spéciales entre Feedback et Radioactive. On s'est demandé la semaine dernière et cette semaine aussi qui étaient les Gilets jaunes. Merci à tous nos invités de nous avoir aidés à éclaircir un petit peu cette question qui, on pensait en tout cas, était pas assez développée dans tous les médias, peut-être même chez tous les Gilets jaunes. C'est vrai qu'on se demande parfois qui sont ces Gilets jaunes qui, comme on l'a dit en début d'émission, est un mouvement très hétérogène, donc peut-être à découvrir. Et on a parlé la semaine dernière aussi des violences policières et de la couverture médiatique. On a dit aussi avec Quentin, merci Quentin, que les journalistes indépendants n'étaient pas eux-mêmes exempts de violences policières. Et on peut le confirmer, Marie, Lucille et moi, je crois, également. merci Lucille. Et puis merci à nos trois invités aujourd'hui d'avoir éclairci aussi de cette question de la place des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes. C'était une question qui nous tenait aussi à cœur pour cette émission. Et puis comme vous l'avez dit, Blaine Lechaud, une des questions aussi peut-être primordiales de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est la question de la représentativité et du leadership. Et donc, affaire à suivre, peut-être 3 ans de Gilets jaunes, comme on l'a dit. En tout cas,
on espère pas.
J'espère pas, parce que... Voilà, si c'est pour avoir des miettes encore, ouais. Bah, on ira à 3 ans si on a encore des miettes, hein, bien sûr, et puis si ça ne s'améliore pas.
Peut-être pas, en tout cas d'ici là, nous on continuera, Lucille et moi, à proposer des reportages sur toutes les manifestations de samedi, comme on le fait depuis 4 semaines, et tous les reportages depuis 4 semaines sont déjà à retrouver sur le site de SILAB, comme le podcast de cette émission. Merci.
On vous remercie de nous avoir écoutés, et vous pouvez écouter le podcast de l'émission sur le site
SILAB.fr. Merci à Elias pour la réalisation d'aujourd'hui.
De rien.